Il est à présent l'heure de retrouver votre émission Écriture dessinée sur les ondes de Radio Escapade en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors, pour cette entre Noël et Jour de l'An, nous allons évoquer l'adaptation littéraire en bande dessinée. Alors, c'est une pratique qui s'est intensifiée ces 10 dernières années, et c'est pour les auteurs la confrontation du dessin avec une langue littéraire, quelle qu'elle soit, puisque les adaptations sont très nombreuses. Et j'ai choisi de centrer cette émission sur trois adaptations principales, mais surtout celle de Notre-Dame de Paris, réalisée par Georges Besse et adaptée de Victor Hugo. Alors, Georges Besse sera avec nous pendant cette émission et nous pourrons discuter avec lui des mécanismes de cette adaptation littéraire qui fait bonheur. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous, Fabien est en technique et on va commencer cette émission sur les adaptations littéraires avec La Maison Huchère. La chute de la Maison Huchère est un des récits les plus célèbres d'Edgar Allan Poe, qui fait partie de ces histoires extraordinaires. Et il y a eu plusieurs adaptations, dont deux récentes. Alors, il y en a une première qui a marqué quand même un peu le genre, puisque c'est celle de Richard Corben. Et il y a donc un album qui avait été publié à l'époque dans la collection spéciale USA d'Albin Michel, et qui s'intitule donc La chute de la Maison Huchère. Alors, Richard Corben, c'est cet auteur qui, dans sa mise en couleur, utilise des couleurs assez flashy. Donc, il y a une palette tout à fait particulière qui a travaillé ses teintes. Et ça, c'est la grande force de Richard Corben. Et puis, donc, une adaptation où il cherche à reprendre le texte d'Edgar Allan Poe. Et donc, on a des récitatifs qui sont extraits du texte de l'auteur anglais. Donc, on a cette base, en fait, réalisé dans les années 80, qui sert de repère. Et récemment, donc, on a eu deux livres sur la Maison Huchère. Il y a celui de Jean Dufaux et James Calderon, intitulé La Maison Huchère, d'après l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Et puis, il y a La chute de la Maison Huchère et autres histoires extraordinaires, illustrées par Paul et Gaëtan Brizzi. Commençons par cette Maison Huchère qui est adaptée en bande dessinée par Jean Dufaux, qui est un scénariste chevronné, et puis Jaime Calderón, moins connu, mais qui s'impose immédiatement par son trait réaliste. Alors, ce qui est étonnant dans ces trois adaptations, c'est effectivement les quelques repères, comme la maison Huchère elle-même. Les architectures diffèrent, bien sûr, mais le côté tout à fait adapté à ce type de récit fantastique, eh bien, a été approprié par chacun des dessinateurs. Alors, Jean Dufaux a vraiment choisi de faire une adaptation libre, de rajouter à ce récit d'Edgar Allan Poe un certain nombre d'éléments et pas des moindres, puisque on a un personnage qui arrive dans le récit directement à la maison Huchère. Là, on le découvre dans une taverne en train de se faire plumer pour la énième fois, puisqu'il perd au jeu. Il compromet son futur mariage et donc sombre dans une sorte de désarroi le plus complet. Il y a l'intervention assez rapide d'un écrivain, de l'écrivain lui-même, qui va évoquer les suites du récit et qu'il peut donner ainsi certains renseignements au personnage de cette nouvelle. Il y a d'autres ajouts assez surprenants, même si on retrouve les personnages de base de la nouvelle, que sont le parent qui habite la maison Huchère et puis sa sœur décédée et qui va être présente dans le château. Il y a donc pour Jean Dufaux un espace de liberté dans l'adaptation littéraire qui est manifeste. On a même ce cimetière qui est associé et adossé à la maison Huchère qui va se retrouver comme dans Poltergeist avec des zombies qui vont surgir de terre. Alors avec le dessin de James Calderon, c'est plutôt efficace, mais on est interpellé par cette liberté sans cadre de Jean Dufaux dans son adaptation littéraire. Alors, James Calderon est un dessinateur espagnol qui a un dessin réaliste, qui va jouer beaucoup avec les premiers plans et les arrière-plans, qui va faire ressortir les personnages dans les décors, qui va être d'une très grande précision pour donner à chacune des images un réalisme appuyé. Mais il y a donc toujours cette surprenante adaptation qui s'éloigne assez rapidement et assez facilement du texte d'Edgar Allan Poe. Alors, à la différence, bien sûr, de la chute de la maison Huchère et autres nouvelles extraordinaires illustrées par Paul et Gaëtan Brisier, c'est que là, on est avec le texte original. À noter, et il faut que je le mentionne, dans le livre de Jean Dufaux et de Jaime Calderón, il y a à la fin le texte intégral de la nouvelle et ça permet de voir cette liberté d'adaptation de Jean Dufaux. Là, avec le choix de l'illustration, Paul et Gaëtan Brizzi, eux, ont choisi. C'est plus qu'une illustration, c'est vraiment une relecture avec des dessins, de s'imprégner vraiment de cette atmosphère fantastique propre à l'univers d'Edgar Allan Poe, et donc de travailler les images avec une matière picturale qui va prolonger, qui va intensifier, prolongé et plus précis, puisque déjà il y a une intensité dans l'écriture manifeste, mais qui va donc donner une représentation à cette intensité littéraire. Le texte est en vis-à-vis, on a une ampleur de l'image importante avec pages et double pages et d'autres images qui s'incrustent dans le texte. Et on est donc avec une représentation graphique associée au texte d'Edgar Allan Poe. Alors, cette matière picturale, c'est donc ce travail du noir et blanc, mais avec cette matière du fusain où le papier semble gratter, où la granulosité du papier va donner du relief, et puis les auteurs reviennent dessus comme s'ils grattaient vraiment ces couleurs. Et le résultat, c'est vraiment les atmosphères et ces couleurs, ces fonds constamment animés, puisqu'on est vraiment sur une sorte de sépia, qui font vraiment merveille. Il y a chez Paul et Gaëtan Brizzi un plaisir à l'illustration ou à la relecture dessinée des œuvres littéraires. Et il y a aussi, puisque ce sont aussi des auteurs de bande dessinée, en tout cas dans cette lecture dessinée de la chute de la maison Huchère, il y a des propositions de représentation qui imprègnent la lecture. Les autres nouvelles sont faites avec la même intensité, mais donc avec à chaque fois des partis pris différents, mais on est dans l'ensemble sur ce travail d'une teinte grattée où on sent que le geste cherche une sorte d'incandescence dans le dessin et il y parvient véritablement. C'est un très beau livre puisque la chute de la maison Huchère et autres histoires extraordinaires est donc un livre qui regroupe 11 nouvelles et il fait 240 pages. Et ces 240 pages sont au prix de 32 euros et le livre a été imprimé, je vous le donne, il a été imprimé en France, généralement c'est ce qui se fait pour Futuropolis, mais je le vérifie, et ben non, donc je vous dis pas où il est imprimé, voilà. Parce que en fait, je dis quand c'est en France et en Belgique, parce que c'est une façon de défendre l'imprimerie française et belge, qui sont des imprimeries de haute qualité. Et donc, beaucoup d'éditeurs touchent par exemple des subventions du Centre National du Livre et vont faire imprimer leurs livres dans les confins. Et c'est pas tout à fait en accord avec cette difficulté que traversent les imprimeurs et qui auraient simplement besoin qu'on fasse un peu plus de livres en France ou en Belgique, et notamment lorsqu'ils sont soutenus par le Centre National du Livre. La Maison Huchère de Jean Dufaux et James Calderon est un livre, lui, qui fait 72 pages. C'est publié par les éditions Delcourt, et les 72 pages sont au prix de 24 euros. Et donc, lui, il est imprimé en Belgique. Et La chute de la maison Huchère et autres histoires extraordinaires a été publiée par les éditions Futuropolis. Et c'est dans la collection des adaptations littéraires, des textes littéraires mis en dessin. Et nous allons écouter le premier morceau choisi par Georges Bess, que l'on rencontrera et écoutera juste après. Thank you.
comme un notaire dit oui, tout oui.
Notre-Dame de Paris est la dernière adaptation littéraire de George Bess. Après son Dracula, adapté de Bram Stoker, et Frankenstein de Mary Shelley, George Bess rencontre cette fois la langue de Hugo. Il s'approprie ce récit épique qui se déroule dans le Paris de la fin du XVe siècle. Nous sommes en 1482. Les personnages mythiques de Hugo prennent avec le dessin du dessinateur du Lama Blanc une dimension qui garde leur grandeur intacte. Quasimodo est si proche de celui de notre imaginaire, Esmeralda, elle, est tout aussi lumineuse. Gringoire, Frollo, Phoebus, Touchefou s'imposent. La Djali, la chèvre de Esmeralda, hérite de l'aisance graphique de George Bess à l'œuvre dans Escondida. L'auteur pousse la représentation dessinée dans des espaces inédits dans ce récit Escondida assez exceptionnel. Il y a un avant pour moi et un après Escondida, tant la puissance du dessin laisse le lecteur pantois. Pour ses adaptations littéraires, George Bess choisit un noir et blanc au noir intense, donne une réalité à la ville de Paris de 1482 et à Notre-Dame. De Quasimodo à Esmeralda, les regards interpellent tout autant. Nous sommes avec tous ces personnages sur le parvis de Notre-Dame. Trois adaptations où la mise en scène de George Bess est libre. Il est avec nous pour détailler ces mécanismes de l'adaptation littéraire. Bonjour George Bess.
Bonjour.
Et merci de répondre à nos questions. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous confrontiez à la langue de Hugo ?
Eh bien, qu'est-ce qui fait ? Ben, j'avais envie, une grande envie de faire une bande dessinée à partir de d'un de ses livres et j'ai choisi Notre-Dame de Paris. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça implique une fois que le choix est fait ? Comment se passe cette adaptation, Georges Bess ?
Ah. Eh bien, d'abord, j'ai toujours une période où je prépare mon travail, c'est-à-dire que je cherche toute la documentation que je peux, et là, il en fallait. Il y avait Notre-Dame, et puis le Moyen-Âge, tout ça, sont des architectures qu'on ne voit plus trop, mais enfin, on peut trouver des tas de choses, finalement. Dans plusieurs villes de France, il y a de très beaux quartiers avec des maisons anciennes. Et, il y a de beaux restes, quoi. Et puis, voilà. Et puis, je fais plein de crobards pour préparer, pour me mettre en fait en appétit. Voilà.
Il y a une lecture particulière du roman de Hugo ou d'un roman quand vous allez l'adapter, Georges Besse ?
Eh bien, j'ai pas fait des tonnes d'adaptations. J'ai fait Dracula, j'ai fait Frankenstein, deux auteurs anglais. Et là, c'est le troisième, c'est Hugo. Ce que je fais jusqu'à présent, je lis l'œuvre. Et ensuite, j'essaye de l'oublier le plus possible. Et quelques temps après, donc ça peut être un mois ou deux ou trois après, je me mets à le dessiner et je réinvente. J'essaye de me rappeler de l'histoire, voilà, me rappeler de l'histoire. C'est-à-dire que je prends pas de notes, c'est plus ou moins intuitif. Je pars d'une idée et puis je remonte le fil, quoi.
Est-ce qu'il y a des allers-retours qui se font alors à ce moment-là avec le roman ou vous restez
oui.
sur cette mémoire
de temps à autre, je reprends le livre et je relis pour voir si je m'étais énormément éloigné ou pas du texte. Et éventuellement, je fais des corrections, mais je crois que j'ai pas grand-chose à corriger. En général, je me trompe pas, quoi. C'est vraiment, ça a mûri dans ma tête, quoi, voilà.
Et Georges Besse, quelle liberté vous donnez-vous dans une adaptation ?
Je me donne toute la liberté du monde. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais de faire quoi que ce soit. Je ne vois pas. À moins que ça ne me plaise pas, que quelque chose me déplaise, mais sinon, je suis libre, quoi. Fidèle, mais libre.
Alors c'est ça, il y a une fidélité qui reste finalement un cadre à l'adaptation. Est-ce que vous pouvez rajouter un personnage, par exemple, ou pas ?
Dans Frankenstein, ma femme me dit que dans Frankenstein...
J'ai rajouté l'aide.
Il y a un bossu dans Frankenstein qui est dans tous les films, alors qu'il n'y a pas du tout ce personnage dans le livre. Et alors j'ai joué à prendre le personnage qui est et ma femme me parle en même temps, alors c'est un peu compliqué.
Donc Pierre Besse est à côté de vous alors.
Oui, elle est à côté de moi et elle est co-auteur, hein, vous savez, elle travaille avec moi. Elle lit les textes que moi je ne lis pas, elle les relit, elle les re-relit, mais enfin c'est le travail qu'elle fait, je ne comprends même pas. Elle est passionnée, alors c'est marrant. Et puis elle adore réécrire aussi le texte. On le réécrit complètement à chaque fois, parce que je vous dis, je l'oublie, puis je ne prends pas le livre, je ne veux pas faire du mot à mot, et il faut quand même garder l'aspect... La langue de
Hugo,
quoi. Et qui est quand même fameuse.
Oui, on est d'accord. Alors, maintenant, j'aimerais que vous nous parliez des personnages, des relations que vous avez avec les personnages lorsqu'ils prennent une réalité différente avec le dessin. Comment se passe cette appropriation des personnages romanesques de Hugo ?
Eh bien, de Hugo ou n'importe quel texte, quand j'ai quoi que ce soit, je fais comme toujours, je fais des tas de croquis, de crobards. Je cherche une plastique qui correspond à l'idée que je me fais du personnage et du rôle qu'il joue.
Pour Grandeur, par exemple, c'était fait une idée de quel acteur aurait pu jouer ce rôle-là et ça t'a mis sur une piste de l'aspect qu'il pouvait avoir.
Oui, plus ou moins, voilà. Bon.
Alors, je fais des... Donc Pia et Georges Besse, est-ce que par exemple, puisque vous avez évoqué tout à l'heure le cinéma pour Frankenstein, est-ce que le Anthony Quinn Quasimodo du film, est-ce qu'il a joué pour la représentation de Quasimodo?
Non, il a pas joué le rôle. J'ai jamais vu le film. J'ai vu des extraits, il m'y arrive, parce qu'on peut pas ne pas voir un jour ou l'autre quelques images, mais bon, moi je trouve que je préfère mon Quasimodo à moi. Il est vraiment difforme et compagnie, alors que le pauvre Anthony Quinn, il était très bon acteur. Ils l'ont un peu grimé et déguisé, mais ça ne faisait pas vraiment le personnage que décrit Hugo dans son livre, quoi.
Et en plus, tu parles de deux personnages qui sont très très jeunes quand même.
Ah oui.
Autant pour Esmeralda que pour...
Oui, Victor Hugo a pensé que... J'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Esmeralda est censée avoir 16 ans dans le livre, qui fait que pour faire une femme fatale qui rend fou les hommes, 16 ans, c'est un peu jeune, je trouvais. Alors, je l'ai un peu vieilli. Mmh. Et Quasimodo, il n'a pas 20 ans. Et Anthony Quinn, il avait 50 ans. Enfin, je ne sais pas quel âge il avait, mais c'était pas un gamin, quoi.
Et Djali, comment ça s'est passé pour Djali, la chèvre d'Esmeralda?
Oui.
Alors, Djali, tu as une relation particulière.
Oui, alors là, ça fait longtemps que j'ai comme un casting, moi. J'ai des trucs qui reviennent régulièrement, que je m'amuse à reprendre dans mes BD diverses. Alors, Djali, je l'avais déjà dessiné dans Pemaling. Pemaling, c'est une série que j'ai faite qui se passe au Tibet. Et puis ailleurs, enfin, à plusieurs reprises, je l'ai fait. Mais c'est une chèvre indienne que j'ai photographiée en long en large, en Inde, parce que j'ai été plein de fois en Inde. Et elles ont un point commun, elles ont des oreilles très longues qui pendent. Pas du tout comme les chèvres françaises, on va dire. Et puis j'adore dessiner les animaux en général, et j'adore dessiner les chèvres aussi en particulier. Voilà.
Alors, j'ai mentionné Escondida dans la présentation de notre entretien. Là, il y a les brebis, mais c'est quand même une confrontation à la liberté du trait, à la représentation qui est assez remarquable. Est-ce qu'il y a dans cette volonté de dessiner les animaux et Djali notamment le même enthousiasme déjà à l'œuvre dans Escondida?
Ben oui, je crois. Ben, j'adore dessiner. C'est difficile. C'est banal de dire ça, mais depuis que je suis tout petit, je dessine. Et c'est une façon de me relier au monde, à la réalité. Et je dessine de préférence ce que j'aime voir. Et j'aime voir tout. J'aime beaucoup de choses, quoi.
Dans cette adaptation du Notre-Dame de Victor Hugo, la ville est très importante, la cathédrale également. C'était une envie de se confronter à un tel monument, d'autant plus important qu'après sa destruction par le feu il y a plus de 4 ans.
C'était pas que la cathédrale, j'avais envie de dessiner le Moyen-Âge, l'architecture, les rues, c'est quelque chose qui fait rêver, quoi, qui me fait rêver depuis longtemps. Donc je me suis dit, ça tombe bien, le bouquin, l'histoire, elle est super sympa. Et puis dessiner le Moyen-Âge, ça m'enthousiasmait. Et Notre-Dame, c'est du boulot, mais ça fait partie du plaisir. Alors j'étais à l'aise, j'étais très content de faire ça.
Alors Pierre et Georges Besse, je vous propose une pause musicale avec Blondie, et puis on se retrouve juste après pour parler mise en scène et encore de dessin. À tout de suite.
Ok.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Georges Bess et Pierre Bess, qui sont auteurs de Notre-Dame de Paris, adapté du roman de Victor Hugo. Georges Bess, votre mise en scène est plus libre, plus ouverte, dirais-je, que par exemple dans celle du Lama Blanc. Est-ce que le fait d'adapter un roman qui a qui est une matière narrative préalable, est-ce que ça s'est associé à cette volonté d'une mise en scène comme ça, très, très ouverte, où il y a toujours une image en dessous d'autres, beaucoup de superpositions, des images qui s'imbriquent. Comment ça se passe, cette mise en scène ?
Eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Au début, quand j'ai fait le Lama Blanc, ça date de plus de 30 ans.
C'est ça.
C'était parmi mes premières albums de bande dessinée. Et j'ai voulu faire comme tout le monde, à peu près, une mise en scène classique. Sauf qu'avec le temps, je me suis libéré de toutes les conventions de la bande dessinée. Par exemple, si on regarde les bandes dessinées classiques, disons, belgico-française, d'antan, c'était une page, une planche était divisée en bandes, trois ou quatre bandes, il y avait 8 ou 10 ou 12 dessins par page. Ce qui fait des petits dessins. Et des petits dessins, ben, on ne peut pas faire grand-chose dans un petit dessin. Et j'ai senti vite, rapidement, la nécessité de pousser les lignes, d'agrandir mes dessins. Et avec le Lama Blanc, ça a commencé assez rapidement. J'ai commencé à faire des pages entières en une image, une page. Il n'y en a pas trop, mais j'ai osé le faire. Voilà. Je crois que je suis un des rares qui le faisait. Par contre, en Amérique, dans le comics, et tout, ils font des choses un peu plus éclatées. J'ai trouvé ça intéressant, donc je l'ai fait. Et actuellement, je me sens complètement libre de faire ce que je veux. Alors, je le fais.
Donc, autre chose, si je peux me permettre, c'est que tu as fait une expo avec des dessins monumentaux très, très grands. Mmh. Et que ça a été une espèce de liberté, de libération par rapport à la bande dessinée et par rapport à la narration. Ça t'a permis de peut-être aussi changer un petit peu les formats et imaginer autre chose, quoi.
Et ben voilà. Ma femme a tout dit.
Ah, j'ai encore des choses à vous demander, Georges.
Oui,
alors,
oui,
il y a une caractéristique dans plusieurs de vos dessins, c'est le lointain. Sur des cases pas forcément très grandes, et on en a de nombreuses dans ce Notre-Dame de Paris, on a un plan très large avec des foules. Il y a la scène avec la cour des miracles, où il y a ouais, plusieurs images. Il y a les rives de la Seine, il y a des vues plongeantes sur le parvis de Notre-Dame. Est-ce qu'il y a un vrai plaisir dans le dessin de ces images, et quelle narration vous donnez à ce type de dessin dans le récit ?
Ben, je sais pas, ça vient au fur et à mesure du déroulement de l'histoire. Je sens qu'il faut élargir le cadrage. Il y a une foule, il vaut mieux. On peut le faire de deux manières. Ou bien on fait une foule en grand, ou alors on fait dans une petite case une foule toute petite. Mais ça marche toujours. Ça, je ne sais pas.
Il y a aussi un autre truc, c'est que tu n'as pas envie de lasser en répétant les mêmes images,
oui,
et que tu changes ton cadrage très souvent pour faire comme s'il y avait des caméras un peu pour un film,
oui,
des caméras un peu partout pour montrer plusieurs points de vue sur la même scène.
Oui, c'est vrai. En fait, moi, je fais du cinéma avec un crayon et du papier, voilà. Dans le cinéma, on change les plans, on change les angles de vue, ça reste, c'est vivant, quoi.
Georges Bess, est-ce qu'il y avait une vision globale de cette adaptation, ou est-ce que vous avez avancé au fur et à mesure de la réalisation? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un travail préparatoire pour savoir comment ça allait se dérouler sur l'ensemble?
Non, en fait, il n'y a pas eu de...
En fait, il y a toujours un travail préparatoire, mais en même temps, c'est improvisé séquence par séquence. Tu ne sais jamais à l'avance ce que ça va être et tu le découvres.
Oui, c'est voilà. C'est parce que j'adore improviser. Donc, mon boulot se fait par improvisation successive. Je sais page après page, je découvre ce que je vais illustrer, et puis je le fais, et puis voilà. Il n'y a pas de ligne directrice.
Le travail préparatoire, mais plus dans tous tes croquis que tu fais à la danse.
Je fais énormément de crobar avant. Il y a de quoi faire deux albums ou trois à chaque fois. J'ai des centaines de dessins que personne ne verra puisqu'ils ne vont jamais sortir nulle part. Mais c'est presque ce que je préfère faire. C'est faire des dessins tant qu'ils racontent quoi que ce soit. C'est hors BD, quoi. Mais après, ils vont me servir. Je fais mes crobards. Après, je les prends, je les redessine dans le cours de l'album, quoi. Voilà.
Georges Besse, quel dessinateur êtes-vous? Comment ça se passe sur la table à dessin? Est-ce que vous êtes un dessinateur à l'énergie? Il y a tout un travail sur l'anatomie qui est une très grande précision, sur les expressions, sur les regards, sur la gestuelle de chacun des personnages. Donc il y a une précision et pourtant on a toujours ce trait assez tendu pour chacun des personnages. Alors comment ça se passe sur votre table à dessin?
Comment je pourrais répondre?
Allez,
c'est ma femme qui a elle.
C'est vrai qu'il y a un dessinateur très concentré. C'est une maîtrise quasiment instinctive des proportions. Tout ça, tu les as tellement dessinées, ouais. Ça fait plus de 50 ans de travail. Ouais. Donc, si jamais ça ne marche pas, si jamais tu sens que ça ne colle pas instinctivement,
ben, je refais.
Tu refais, tu gommes beaucoup en fait.
Oui.
Et
Ah oui, alors j'utilise des kilos de gomme. J'ai des boîtes de reste de gomme, je sais pas, une blague. J'en ai plein. Je gomme plus que je ne dessine, en fait.
Voilà le type de dessinateur.
Voilà, je suis un gommeur.
Et à l'ancrage, alors, ça se passe comment?
Comment?
L'ancrage.
Ça va. J'ai beaucoup peiné dans le temps, mais ça va. J'ai trouvé un instrument qui est pas mal, enfin, des stylos... japonais, qui sont spéciaux, qui font que le dessin est très bien.
L'ancrage, quand même, c'est que les outils évoluent au fur et à mesure du temps et qu'il y a eu des périodes où il n'y avait que le pinceau et la plume et c'était un peu galère. Enfin, c'était un peu raide et le pinceau, c'était un peu touchy, quoi, un peu délicat. Mais après, il y a eu une période où, dans les années, je crois, 90, ça avait trouvé des espèces de Votering, c'était merveilleux.
C'était la Rolls du stylo, j'appelle ça.
Photoshop et l'ordinateur qui s'est mis à prendre toute la place au cœur des métiers du dessin. Et les Votering ont disparu
du commerce. Ils ont arrêté de les fabriquer.
Du coup, maintenant, tu as réussi à retrouver d'autres trucs, mais c'est pas aussi chouette que les...
Non, j'adorais ces Votering que j'avais trouvés à l'époque. C'était formidable, mais bon, ils ont arrêté de les fabriquer. J'ai cherché partout, à l'étranger, en France, et là, comme ils ne fabriquent plus ça, il n'y en a plus. Et du coup, je me suis rabattu. Bon, ben, j'ai trouvé ces stylos qu'ils appellent des mangaka. C'est mangaka.
Les
dessinateurs de manga au Japon servent plus ou moins de ça. Et c'est très pratique pour moi.
Georges et Pierre Besse, est-ce que ce Notre-Dame donc de Paris, adapté en bande dessinée, est-ce qu'il va marquer une étape? Est-ce qu'il va vous permettre d'envisager d'autres adaptations, peut-être plus importantes encore? Et il y en a. Proust, par exemple.
Comment? Ah bah,
Combien de pages déjà
Oh.
Écoutez, je ne sais pas pour Proust, mais ce que je sais, c'est que un jour, je me suis rendu compte que j'en avais marre de travailler avec des scénaristes, de véritables, entre guillemets, scénaristes, et qu'ils étaient rarement à la hauteur de ce que j'espérais. Par conséquent, j'ai choisi mes scénaristes à ma manière, et j'ai commencé avec Dracula, et ensuite Mary Shelley. C'était deux albums que j'ai lus dans ma jeunesse et qui m'avaient beaucoup marqué. J'ai eu envie de les adapter. Et ensuite, j'ai cherché un équivalent, quelque chose d'intéressant à faire avec un auteur français. J'ai pas trouvé mieux que Victor Hugo, que je pense était un génie de l'écriture, et pas que de l'écriture. Et voilà. Et par contre, je me suis débarrassé définitivement des auteurs de BD, même des scénaristes. Voilà.
Ceci dit, c'est surtout le plaisir et l'envie de dessiner l'histoire, le décor, tout ça, quoi.
Ouais.
Plus que l'ambition qu'il peut y avoir dans un projet.
Ah oui, vous pensez jamais à ça. C'est vrai, je suis braqué sur le plaisir de faire quelque chose. C'est tout simple.
Il y a déjà un auteur qui se profile pour une adaptation à venir, Georges Bess.
Il y en a quelques-uns.
Ah, bon.
Et il y a aussi le fait que par exemple, je m'imagine très bien faire des histoires moi-même, être mon propre scénariste, ce qui m'est déjà arrivé très souvent par le passé, mais faire des histoires, j'ai envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler en même temps. Bon, je crois que c'est trop tôt. Là, par exemple, je suis à une période de repos entre deux albums, et je fais des dessins pour préparer le futur album, mais je peux pas en parler.
Eh ben, nous resterons sur ce côté un peu mystérieux, et je vais rappeler les références de votre livre, Georges et Pia Bess. Donc, c'est Notre-Dame de Paris adapté de Victor Hugo. Le nombre de pages, c'est 208. C'est publié par les éditions Glénat. Et le prix de cette adaptation est au prix de 25,50 €. Et je vous remercie. Puis on sera au rendez-vous pour les prochaines adaptations ou prochains récits, prochaines bandes dessinées. Très bonne continuation à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et bonjour à tout le monde.
Merci. Au revoir, Pierre et Georges Bess.
Au revoir.
Misfits and boozers hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish, you failed. There's always a hope on this slippery slope. Somewhere a ghost of a chance to get back in the game and burn up your shame and dance with the big boys again.
I know why you're in Slough House.
I ain't done.
Why are you here, Sid?
I thought Slough House was like prison. You're not supposed to ask what you're in for.
Yes, a strange, strange game. Strange, strange game.
There is something finally happening here.
What's it got to do with you? Whatever's going on, it'd be a job for the real agents.
Right, so what do we do then?
What we always do here. Absolutely nothing. Come on. Back to your desks. Come on, all of you, out.
Just leave him.
You pile up the corpses, exhausted your sources, living right under a cloud. The odds are against you, the gods haven't blessed you. You better get back on the rails. Drop down on the data, keep pushing the paper. The depth's dripping down on the walls. It's a million to one, there's a place in the sun to dance with the big boys again.
Je voudrais terminer cette émission avec l'adaptation littéraire du roman de Pierre Lemaitre, Miroir de nos peines, qui fait partie, qui clôt la trilogie Les Enfants du Désastre. Donc Christian de Metter, qui a réalisé cette adaptation, donc, est aussi un auteur qui n'hésite pas à rencontrer l'œuvre littéraire ou même une autre matière narrative pouvant venir d'une série télévisée. Et donc, on a une envie, un enthousiasme, comme on a pu l'entendre avec Georges et Pierre Bess, du principe de cette adaptation littéraire et d'une certaine liberté qu'il peut avoir. Alors, le récit de Miroir de nos peines se déroule donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en avril 1940. Louise, 30 ans, court nue sur le boulevard de Montparnasse pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre. Elle va devoir plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France tout entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger des héros et les salauds, des menteurs et des lâches, et quelques hommes de bonne volonté. Donc, Christian de Metter va rester très sensible et fidèle à cette intensité des personnages que l'on peut lire dans les romans de Pierre Lemaitre, et il va donc travailler, par exemple, avec dans ce miroir de nos peines, avec ce travail au trait qui est très proche du croquis de l'esquisse, sur lequel il va ajouter un traitement de la couleur, souvent assez sobre, et sur lequel il rajoute une estompe pour donner une matière à la couleur et animer ainsi la mise en image. Il y a dans ce travail de croquis cette souplesse du trait. On sent vraiment le dessin au crayon, comme si la photocopieuse permettait de le noircir immédiatement et de garder cette souplesse du geste, cette façon de rechercher les personnages. Christian de Metter capte les ressemblances avec facilité, donc on n'a aucun problème pour suivre les différents protagonistes de cette histoire. Il y a une façon de mettre en scène qui fait que on va avoir une continuité et une localisation facile des différents lieux dans lesquels se déroule ce miroir de nos peines. Il y a un passage par des cadrages plus serrés pour capter les relations entre les uns et les autres, pour traduire de façon un peu plus intense, plus appuyée, les sentiments, les désarrois, les peines, mais aussi les enthousiasmes. Il y a dans ce principe de cette adaptation littéraire, toujours une certaine densité, une intensité dans les différents déroulés, les différentes pages. C'est-à-dire qu'on a des récits d'ampleur. Là, il y a 176 pages et qui permet vraiment d'être dans cette intensité du roman. Une chose est évidente, certaine, c'est que l'idée n'est pas de faire œuvre comme le roman, c'est vraiment une nouvelle œuvre qui est représentée, qui est réalisée avec l'ajout du dessin qui permet d'être différent dans sa lecture du récit, notamment parce que l'image porte un très grand nombre d'informations textuelles et qui fait que notre relation au récit lui-même, à la narration, va se faire de façon différente. Pour les amateurs de bande dessinée, il y a une sorte de continuité, d'aisance, de facilité de lecture, parce qu'on est tout à fait dans ce type de narration. Et lorsque les amateurs de littérature qui connaissent l'œuvre vont découvrir vraiment une œuvre différente, portée différemment, beaucoup plus qu'avec le cinéma, où très souvent, lorsqu'on sort d'une adaptation cinématographique d'un roman, on est presque unanimement à dire que on préférait mieux le récit. Contrairement au cinéma où il est plus facile d'adapter un mauvais roman et d'en faire un très beau film, en bande dessinée, le simple fait d'utiliser le dessin fait qu'on a une transposition du récit qui donne une nouvelle œuvre. C'est particulièrement vrai avec ce Miroir de nos peines de Christian Demeter, adapté donc de Pierre Lemaître. Il y a vraiment des moments tout à fait saisissants. Si on prend l'ensemble des œuvres de Christian Demeter, on a vraiment un mouvement dans la représentation et la façon de dessiner, d'utiliser la bande dessinée, qui fait que le style s'adapte vraiment au récit lui-même. Miroir de nos peines de Christian Demeter, adapté donc du roman de Pierre Lemaître, c'est publié par les éditions Rue de Sèvres. Les 176 pages de ce livre sont au prix de 25 euros. Et bien, je vous souhaite une très bonne fête de Nouvel An. On va se retrouver l'année prochaine et très bonne continuation sur les ondes de Radio Escapade. Merci Fabien. Bonne semaine à tous.
Écriture dessinée.